Booster Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
C'est un beau jour que celui-là, jour d'été, fête de la musique, et puis, désolé de le rappeler, les jours vont commencer à raccourcir. Nadir Hamaoui, bonjour.
Bonjour Christophe.
Nous allons au théâtre.
Comme d'habitude.
Et nous y allons avec Aurelius, qui est un stagiaire de seconde, parce que oui, nous accueillons des stagiaires à
Bienvenue.
Notre-Dame. Bienvenue Aurelius.
Bonjour.
Je ne saurais trop vous encourager à rire, surtout dans ces périodes un peu difficiles, et puis à rire du sport. Parce qu'il y a les JO qui arrivent bientôt. On est très, très au sérieux là-dessus. On est très au taquet là-dessus. Mais et si on se marrait?
Alors,
ça fait toujours du bien.
Allons-y.
Et le spectacle s'appelle Fair Play. Il se joue au Petit Montparnasse. Vous savez, c'est l'impasse qui longe le théâtre Montparnasse depuis la rue de la Gaîté. Alors, c'est un spectacle qui a deux comédiens, Patrice Thibault et Philippe Léniac. Philippe Léniac qui est aussi au piano. Le spectacle date de 2013, et donc il n'est pas récent, mais les deux comédiens ont eu totalement raison de le redonner en ces temps de Jeux Olympiques, comme je disais. Alors, qu'est-ce qu'on assiste à une série de sketchs essentiellement muets, avec du mime, de la gym, de la danse. Sur le plateau, il y a le corps, et puis tout ce qu'il peut faire, alors de la performance, des pathétiques mouvements pour atteindre au sublime. C'est un corps à muscler, à déployer, mais ce pauvre Patrick Thibault, la soixantaine, a tout le poids de la soixantaine, donc c'est vraiment pas un athlète, et il va nous jouer l'athlète. Et c'est ça qui...
Ça doit être très comique.
Et c'est très comique. On rit tout le temps, c'est grotesque. Vous avez, par exemple, au début, il passe de cour à jardin, et le jardin à cour, en tenant la flamme olympique. Et il fait tous les personnages qui peuvent tenir la flamme olympique avec tout ce qu'il peut y avoir comme incident. La flamme qui s'éteint, la flamme qui se tombe par terre, enfin... Et ça dure, je sais pas, 3-4 minutes, et il fait 15 personnages. Et à chaque fois qu'il passe, on dit, mais qu'est-ce qu'il va encore inventer? Et à chaque fois, il invente quelque chose. Et puis, il y a un autre sketch qui m'a mis dans une hilarité profonde, c'est le coach de football sur le terrain de football pendant un match. Et ça, c'est grandiose.
Ah, ça doit être intéressant à voir.
Oui, ça c'est...
Qu'on aime ou pas le sport, je pense que...
On a tous eu un match de foot, et on imagine tous ce que fait le coach sur la pelouse quand il s'adresse aux joueurs pour les faire avancer, pour les faire courir, pour les faire accélérer, et pour surtout qu'il continue à avoir sa stratégie à lui.
Et donc, c'est exclusivement du muet, du mime, ou
il y a aussi des
dialogues?
Non, alors là, il parle.
Ah oui, oui.
Là, il parle.
Non, parce que même en muet, en mime, ça peut être très drôle. Hein,
oui.
C'est pour ça que je pose la question.
Là, il parle, et c'est aussi très, très physique. Patrice Thibault, il est mime, il est danseur, il est auteur. Alors, normalement, on voit du Tati, du Chaplin, on voit tous les grands clowns élastiques, parce que, alors, vraiment, il est d'une souplesse incroyable. Vous l'avez déjà vu au cinéma, vous l'avez vu dans Regarde-moi quand je te quitte, de Philippe Broca. Il a joué aussi dans Tanguy, d'Étienne Châtilliez, Astérix aux Jeux Olympiques, aussi, et puis Mes Amis, Mes Amours, La Cerise sur le Gâteau, Yves Saint-Laurent, où il jouait avec Christian Dior, Pourquoi j'ai pas mangé mon père, de Jamel Debbouze. C'est une star, c'est un comédien plus que aguerri. Et curieusement, quand j'ai regardé ses spectacles, eh bien, il joue autant Le Roi Semeur de Ionesco, il joue du Polyeute de Corneille, donc, et puis des textes plus contemporains. Et il a joué dans 1789 d'Ariane Nouchkine.
Ah.
Donc il vient aussi de ce théâtre-là.
Du subventionné.
Voilà. Ah. Ce qui signifie qu'on a affaire quand même à un très grand artiste. Et allez voir vraiment Fair Play au Petit Montparnasse.
Ça se joue jusqu'à quand? C'est pas facile à dire. Ça.
Oui, ben redites-le mieux.
Ça se joue jusqu'à quand?
Voilà,
c'est pas bien de se moquer, Christophe.
C'est très bien. On va dire jusqu'à la fin du mois, en tout cas. Toujours dans la rue de la Gaîté, et ben juste en face, à la Gaîté Montparnasse, vous avez vu l'embarras du choix de Sébastien Azzopardi. Nous en avions déjà parlé. Sébastien Azzopardi était venu lui-même en parler ici, dans ce studio. Alors, Nadir, rafraîchissez-nous un peu la mémoire.
Alors, pour rafraîchir un peu la mémoire de nos auditeurs, donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Max, qui fête ses 35 ans. Il travaille à la bijouterie qui appartient à son beau-frère. Il va se marier avec sa petite amie de collège ou de lycée. Et jusqu'au jour où, dans cette bijouterie, réapparaît son amour de jeunesse qu'il n'a pas vu depuis plus de 10 ans.
Et bim.
Et qui vit, qui elle vit à Bali. Donc il se dit, mais j'ai l'impression d'avoir raté ma vie, surtout qu'il a en plus un cousin qui lui dit, mais il faudrait remonter notre groupe parce qu'ils avaient un groupe de rock qui s'appelait Les Gueules Noires. Donc il se dit, mais j'ai raté ma vie, je gâche quelque chose, qu'est-ce que je dois faire? Et à partir de là, c'est là où démarre la participation du public, c'est que à son anniversaire.
Alors il arrive à son anniversaire, enfin le jour de son anniversaire, il rentre chez lui, il ouvre la porte. Et là, tout s'illumine, tout le théâtre s'illumine, et tout le monde chante Happy Birthday to You, et c'était l'anniversaire surprise. Et nous sommes, nous, les invités à l'anniversaire surprise.
Voilà, nous sommes ses amis d'enfance qu'il n'a pas vu depuis des années.
Voilà.
Et à partir de là, il se demande, mais qu'est-ce que je dois faire? Et il va demander à ses amis d'enfance, justement, de lui dire, mais qu'est-ce que je dois faire avec telle personne? Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là?
Alors, il interroge le public, il prend quelqu'un au hasard, et dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Je quitte ma femme, et je pars avec mon ancien amour, où je laisse tomber mon ancien amour et je reste avec ma femme. Alors la personne dans le public choisit, elle va lui dire peut-être, maintenant tu restes avec ta femme. Donc il va jouer la scène où il reste avec sa femme.
Tout à fait.
Mais si on lui dit tu plaques ta femme, eh ben il va jouer la scène où il plaque sa femme. C'est-à-dire que c'est le public qui décide du texte et de la situation.
Tout à fait.
Et Sébastien Zopardi nous disait qu'il y a 13 versions.
Mm. Exactement, il y a 13 versions et moi c'est la deuxième fois que j'y vais. Mmh. Je l'avais déjà vu il y a peut-être un an et demi avec Sébastien Zopardi lui-même. Là bien sûr, succès oblige, il y a énormément de changements de distribution. Il y a beaucoup d'alternants à la place de Sébastien Zopardi. C'est un jeune homme qui s'appelle Jean-Baptiste Darrozet, j'en avais parlé puisqu'il avait été plusieurs fois couronné de prix pour son spectacle Odyssée, la conférence musicale, qui était au Lucernaire et à la Huchette, qui est un excellent spectacle. Là, c'est lui qui reprend le rôle de Max. Et en fait, quel que soit le comédien, il faut avoir vraiment un don de l'impro. Parce qu'on doit vraiment improviser.
L'impro de la mémoire.
Voilà,
de...
par rapport aux réactions à ce que le public va dire.
Mais oui.
Et c'est énorme. Et
non, parce que vous parlez d'impro, mais tout est écrit. Les 13 versions sont écrites.
Les réactions du public, il se base sur sur ce que le public va lui dire. Donc là, il improvise avec le public.
Oui, mais vous avez remarqué que les questions qui sont posées sont toujours binaires.
Oui, ça bien sûr.
Et pour permettre de changer le texte.
Et là, pas tant que ça, parce qu'il y a des fois, il pose des questions et il y a des réponses du public qui sont absolument énormes. Et même lui, quand on voit le regard qu'il a, il dit « Mais comment il a pu dire ça ?» Par exemple, il y a une scène où il s'engueule avec sa femme au moment du Nouvel An, qui passe avec son beau-frère d'ailleurs. Et sa femme arrive, elle s'énerve, elle l'engueule. Et il dit, mais comment je dois réagir? Il y a quand même quelqu'un du public, le jour où je suis venu, qui lui a dit, des coups.
Ah oui?
Alors là, la salle était, mais même lui, le pauvre Jean-Baptiste sur scène, il était comme ça.
La salle était médusée.
Et là, il dit, ça n'engage que lui. Il a dit ouvertement. La phrase exacte qu'il lui demande, c'est, je dois utiliser la chose principale chez l'homme lors d'une dispute. Il y en a qui disent la mauvaise foi, il y en a qui disent le mensonge, il y en a un qui a répondu les coups. Il y a eu un blanc dans la salle à ce moment-là.
Ah oui.
Il y en a qui ont ri et Jean-Baptiste Jamais disait ça ne regarde que lui. Il est seul bête de sa réponse. Donc des fois oui même.
Et il a joué la scène.
Non, bien sûr que non. Il a rebondi avec d'autres choses que le public disait.
Ouais.
Et c'est ça qui est excellent, c'est qu'il faut vraiment être très très doué pour l'improvisation et la répartie pour pouvoir réussir un spectacle comme celui-là. Et des fois, le spectacle qui normalement doit durer 1h30 peut durer des fois 1h45, 1h50. Rien qu'avec ces petits jeux d'impro qu'il a avec les comédiens ont avec le public.
Et il y a plusieurs comédiens sur scène.
Ah, ils sont 5.
Voilà. Donc ce n'est pas un one man show.
Absolument.
Avec une improvisation possible. Donc c'est vraiment une vraie pièce avec une vraie histoire, un vrai début. Une vraie fin.
Exactement.
Et toujours l'embarras du choix.
Voilà. Et c'est pas la première fois que Sébastien Zopardi nous offre ce genre de spectacle, puisque ça se joue encore en ce moment au théâtre des Mathurins depuis je ne sais combien d'années. Plus de 10 ans.
Dernier coup de ciseau.
Pour résumer, ça se passe dans un salon de coiffure. Il y a un crime à l'étage au-dessus. Les seuls suspects possibles sont dans le salon de coiffure. La police est là pour enquêter. Et à partir de là, vroom, la lumière de la salle s'ouvre. Et c'est le public qui va dire ce qui s'est passé à tel moment, à tel moment. Et là, pareil, les comédiens doivent improviser, parce que là, c'est totalement de l'impro, par rapport à ce que le public va dire aux flics. Et il y a 4 ou 5 solutions finales possibles, autant qu'il y a de suspects. Et c'est juste extraordinaire, ça fait plus de 10 ans que ça se joue, et ça ne désemplit pas. Et ça va continuer à se jouer comme l'embarras du choix durant tout l'été, à Paris, même pendant les JO. Quand même balèze.
Donc ce sont deux spectacles que l'on peut voir pour quitter nos écrans de télévision et quitter les séances d'athlétisme.
Voilà.
Et, voilà. ou bien se retrouver simplement au théâtre, ça fait toujours du bien. Autre pièce qui repasse en ce moment, et c'est intéressant, il faut garder les liens et les dates, parce que ça reprend le 14 juin, c'est-à-dire cette semaine. Mm-hmm. Ça vient de reprendre, et ça va jusqu'au 13 juillet, du mardi au samedi à 21h. C'est la pièce qui s'appelle « C'est pas facile d'être heureux quand tout va mal » de Rudi Milstein au Théâtre Le Pic. Rudi Milstein qui a obtenu le Molière de la meilleure comédie et le Molière du meilleur auteur francophone français. Alors, ils reviendront le 4 septembre au Théâtre Le Pic pour continuer leur succès, mais on peut y aller dès maintenant et jusqu'au 13 juillet, ce qui est une très bonne chose pour les jolies soirées d'été. Alors c'est l'histoire de Nora et de Jonathan qui sont en couple depuis bien trop longtemps et c'est nul. Alors Maxime, quant à lui, fait des parties en l'air dans l'espoir de rencontrer l'homme de sa vie, et puis c'est nul aussi. Alors Timothée, lui, pense qu'il est heureux alors que sa vie est nulle, et Jeanne aussi a une vie bien nulle, mais au moins elle le sait. Bref, c'est l'histoire de cinq Parisiens.
On peut résumer, c'est vrai que c'est résumé comme ça, c'est ça. Mais là où est le talent, et on comprend pourquoi il a été couronné de Rudi Milstein, c'est que sa pièce, c'est vrai que c'est une ode au bonheur, mais avec des gens qui ont que des vies de merde.
Oui.
Mais ils le disent ouvertement.
Oui.
Et le texte, on en avait parlé il y a quelques mois de cela avec avec Jean-Luc,
oui.
avec notre collègue Jean-Luc Génère, qui Il faut le rappeler, c'est une pièce qu'il a beaucoup aimée.
Oui, et approuvée.
et approuvée, ce qui est très rare. Donc oui, cette pièce-là, elle est drôle parce qu'elle est irrévérencieuse. Les cinq comédiens qu'il y a au plateau sont absolument excellents. La mise en scène est très fluide. Et il y a toutes les générations qui viennent voir ce spectacle parce que ça parle vraiment à tout le monde. Que ce soit les petits jeunes de 20 ans, comme les trentenaires comme moi, comme les Quadra, Quinca et plus comme Christophe, ça, et même plus, ça plaît vraiment à tout le monde cette pièce et les gens rient. Et dès le début de ses représentations, c'était blindé de chez blindé et ça continue encore de plus belle.
Il faut dire que Salomé Lelouch, qui dirige le Théâtre Le Pic à Montmartre, fait un très très bon travail puisqu'elle arrive à mélanger tout le public et il y a beaucoup beaucoup de jeunes.
Ah oui, exactement.
Il y a
oui.
beaucoup de jeunes de 20 ans, de 30 ans et qui est un public fidèle et habitué. Et il faut dire que avec sa programmation, elle répond toujours soit en donnant beaucoup d'étonnement, soit en surprenant. Mais ce n'est jamais décalé.
Non. Elle a réussi à faire une ligne éditoriale de programmation qui plaît non seulement à tous les âges, mais qui donne envie aux jeunes de se réconcilier avec le théâtre,
oui.
avec du contemporain. Il n'y a pas beaucoup de théâtre classique, il n'y a pas du tout, même d'ailleurs de théâtre classique
oui.
Olympique, mais avec le théâtre contemporain, c'est un très beau partenariat entre les jeunes de 20 ans et plus et le théâtre.
Alors, on y est très bien, on peut y aller un peu avant parce qu'il y a des salons très agréables,
oui.
Le bar est très agréable aussi.
Aussi.
La salle, on y est bien assis.
Oui. Quel que soit l'endroit où on est placé.
Et on voit très bien de partout. Non, c'est un coup de chapeau, vraiment, à ce théâtre Le Pic. Et donc, c'est pas facile d'être heureux quand tout va mal. De Rudi Milstein, je vous recommande absolument. Il nous reste une poignée de minutes, non, un peu plus, mais pour parler des spectacles qui viennent. C'est la dernière, le 26 juin, faut pas l'oublier, c'est la dernière de Kessel. Vous savez, les patents seuls en scène de Franck Desmet au théâtre Rive Gauche. Ne croyez pas qu'il partent en vacances, ils partent simplement à Avignon pour aller jouer à Avignon, et où il va faire certainement salle pleine. Et puis il jouera au Théâtre du Roi René à Avignon. Et puis il revient fin août.
Tout à fait.
Pour un automne flamboyant, toujours au Théâtre Rive-Gauche, rue de la Gaîté.
Oui, et ce qui est quand même épatant, c'est qu'un seul en scène, comme celui-là, bon, qui est excellent, il n'y a rien à dire là-dessus, arrive à remplir et à faire salle comble depuis le début de sa programmation dans un immense théâtre comme l'est le Rive-Gauche, alors que des fois, des spectacles avec beaucoup de têtes d'affiche n'y arrivent pas. Lui, avec un seul en scène, y arrive depuis plusieurs mois, et c'était déjà le cas au Lucernaire, mais là, la salle est beaucoup plus grande, mais... ça parle, ça plaît, ça parle et ça attire beaucoup de monde, ce spectacle-là.
Alors, il y a son charisme. de Franck Desmet, incontestable.
Il y a le texte.
Il y a une énergie incroyable, parce que vraiment, il mouille sa chemise, ça il faut le dire. Et puis, il y a un texte génial.
Signé Mathurano.
Parce qu'il parle de Kessel. Aurelius, vous connaissez Kessel, Joseph Kessel? Aurelius, c'est notre stagiaire.
Non.
Non, ça ne vous dit rien? Bon. Eh bien, il faut aller voir, ce seul en scène, parce que effectivement, on ne lit plus Kessel aujourd'hui. C'est un auteur. C'était un journaliste et c'était un romancier. Et il a terminé à l'Académie française. On ne lit plus Kessel aujourd'hui. Et là, en une heure et demie, on a toute la vie de Kessel, ses engagements pendant la guerre. C'était un type qui buvait comme un fou et qui terminait en croquant les verres. Et on le retrouvait jamais ivre mort, mais toujours bien imbibé. Mais c'était un type qui avait une corpulence incroyable. Et puis, lorsqu'il partait en reportage, et il est parti en Afghanistan notamment, il envoyait ses papiers au journal et les gens se précipitaient pour lire le journal, tellement on était pris dans le reportage, et on découvrait des choses. Il n'y avait pas d'images, il n'y avait pas de films comme aujourd'hui, où tout est convocable sur nos smartphones. Donc, il touchait à notre imaginaire, et ça a été une plume extraordinaire. Et vraiment, un tout grand homme. Et Franck Desmet nous raconte son histoire de façon extrêmement simple. Et quand vous l'avez vu, et ben, vous avez intégré ce destin, vous avez rencontré une nouvelle personne, vous avez un nouvel ami donc, et vous pouvez ouvrir n'importe quel livre de Kessel, vous serez passionné. Et puis si vous n'ouvrez pas n'importe quel livre de Kessel, au moins vous saurez que ça existe.
Quel livre on peut conseiller à un jeune homme qui ne connaît pas l'univers de Joseph Kessel? Les Cavaliers peut-être?
Ah oui.
Ah oui, c'est un très très bon spectacle, c'est un très beau livre. Et vous pouvez rencontrer d'autres personnes historiques dans ce spectacle, je pense notamment au général de Gaulle.
Oui.
Voilà.
À Maurice Dorion.
Oui, à Francis Huster.
Et Francis Huster qui est là, bon. Voilà. Mais ça, c'est le...
Et Humphrey Bogart.
C'est la cerise sur le gâteau. Tout ça pour vous dire que ce spectacle est aussi drôle.
Tout à fait.
Et qu'on rit de mon cœur. Bravo à Franck Desmet. Alors, attention, ce sont les derniers jours. C'est vraiment le moment d'aller au Théâtre des Nouveautés pour voir Berlin-Berlin de Patrick Hautecoeur et Gérald Sibleras. Les deux compères donneront un nouveau spectacle à la rentrée. Donc Berlin-Berlin risque de ne pas être remis sur scène à Paris, à la rentrée en tout cas. Faut le voir.
Oui, parce que c'est vraiment une comédie d'aventure absolument réussie.
Donc on est à Berlin, c'est un couple qui décide de quitter le Berlin-Est et ils vont être logés chez une vieille dame pour pouvoir bénéficier de la cave et passer, faire un trou et passer à l'ouest et pouvoir s'évader. Sauf que la vieille dame, elle a un fils et le fils c'est le tout grand patron de la Stasi. Donc quiproquo, complications, angoisse, énervement, fatigue,
un nid d'espion,
et c'est vraiment très très drôle. Donc à voir. Et là c'est vraiment les derniers jours,
hein. Ah oui, c'est vraiment les derniers jours. Je ne pense pas qu'ils partiront en tournée avec cette pièce. Il y a déjà eu une tournée qui était triomphante, et comme tu l'as dit si bien Christophe, à la rentrée il y a la nouvelle pièce de Patrick Hautecoeur et de Gérard Sibleras, qui s'appelle Mon jour de chance, avec comme tête d'affiche Monsieur Guillaume de Tonquédec.
Je m'attends au pire.
Qui rentre pour la première fois dans l'univers de Patrick Hautecoeur, avec une mise en scène toujours signée José Paul, d'ailleurs, qui a fait la mise en scène de Bernard Berlin. Donc ça va être très prometteur. Même la distribution qu'il y a autour, il y a Jean Franco, il y a Caroline Maillard, il y a Lisiane Meiss, qui était déjà toutes les deux dans Berlin-Berlin. Il y a...
tous les grands déconneurs.
Il y a tous ceux de l'équipe de Berlin-Berlin. Oui. Et en plus, Jean Franco et Guillaume de Tonquédec qui seront sur la scène du Théâtre Fontaine avec ce nouveau spectacle. Donc, je pense qu'on s'attend au pire du meilleur, au meilleur du pire.
Au meilleur du pire.
Avec Patrick Hautecoeur.
Oui, en tout cas, ça risque d'être très, très drôle.
Ah ben ça. Se termine bientôt également, on en a beaucoup parlé dans cette émission, c'est La Crème de Normandie.
Oui.
Hervé De Volder et Milena Marinelli qui se jouent au Théâtre du Gymnase. Jusqu'à la semaine prochaine, le 28 6 juin, c'est la dernière.
Alors, il faut se précipiter.
Il ne reste que 7... il nous reste que 4 représentations.
C'est vraiment un spectacle formidable, drôle, enlevé, charmant, vraiment charmant, plein de charme. Enfin, comme est notre ami Hervé
De
Volder.
Alors moi, un spectacle que j'ai beaucoup aimé, mais ça n'a pas été le cas de tout le monde sur ce place, dans cette émission, qui se joue jusqu'au 7 juillet. Lui, par contre, vous avez encore un peu de temps pour aller le voir, qui est au théâtre de la Michaudière. C'est Lady Agatha, un spectacle qui est un bel hommage à la reine du crime, Agatha Christie, que moi j'avais beaucoup aimé. Je sais que Jean-Luc et toi, la vie était un petit peu mitigée. Je veux dire mitigée.
Alors, on reprend notre baromètre. Aurélius, vous connaissez Agatha Christie ?
Oui.
Ah bah voilà, oui. Quand même.
Bon, vous avez lu quelques livres d'Agatha Christie ?
Oui, plusieurs.
Oui, et vous savez qui elle était, cette dame ? Sa vie, est-ce qu'elle était mariée, est-ce qu'elle avait des enfants, comment elle s'est mise à écrire ?
Je ne connais pas exactement sa vie.
Bon, et ben donc, il faut aller voir...
Lady Agatha,
ça se joue où ?
Au Théâtre de la Michaudière, cette fois-ci.
Voilà, et au Théâtre de la Michaudière, et donc en 1h15, vous saurez tout sur la vie d'Agatha Christie. Donc finalement, c'est pas mal, parce que je connais notre Jean-Luc Génère qui nous dit de temps en temps que ce n'est pas du théâtre quand on a des biopics comme ça. Mais pour la génération d'Aurélius, qui est un jeune homme stagiaire de classe de seconde, eh bien c'est très intéressant. Il faudrait que vos parents prennent des places pour aller voir à la fois Kessel, Lady Agatha, ces pièces qui nous donnent le goût de la rencontre et qui nous donne aussi l'envie ensuite de mieux connaître, de lire, de
et puis ça ces grands noms de l'histoire et de la littérature
et de savoir que ça existait.
Ah bah tout à fait.
Bon, donc c'est à faire.
Voilà, faut faire une petite liste là. Il y a beaucoup de conseils. Si vous voulez rire, puisque on les a même reçus ici.
Et je tiens à dire qu'il y a des tarifs jeunes publics.
Oui.
Que le théâtre est souvent moins cher que le cinéma pour vous, c'est-à-dire à 10 euros.
Tout à fait.
Et voilà, donc je serai vos parents, je prendrai 2 places et je vous les transmettrai, Aurélius, en disant tu y vas avec qui tu veux.
Ouais, c'est parce que ça, c'est vraiment super. Ça permet également aux jeunes de moins de 26 ans de pouvoir retourner, de pouvoir aller découvrir de beaux spectacles sans que ça coûte une somme faramineuse.
Mais oui, et on ne le dit pas assez. Les jeunes, c'est pas cher. Et donc, vous y allez à deux, parce que c'est beaucoup plus amusant d'aller au théâtre à deux que seul. Vous y allez avec qui vous voulez, votre copain, votre copine, votre frère, votre soeur, qui vous voulez. Et vous passez forcément un très bon moment. Alors, on peut aller en matinée le dimanche vers 17h. Il y a énormément de jeunes dans ces matinées, d'ailleurs. Et puis un soir de semaine, puisque les vacances sont bientôt là. Autre...
2 derniers conseils.
Oui.
Alors, le premier, on en avait parlé il y a quelques mois, ils reviennent pour 4 représentations exceptionnelles au Théâtre de l'Essaillon. C'est un pont trop près. On en a même parlé la semaine dernière avec l'équipe de l'Essaillon.
Formidable, un pont trop près.
Oui. Le 21, 22, 28 et 29 juin seulement.
Donc il faut vraiment y aller. Le 21, c'est ce soir. Le 22, c'est demain. Mm-hmm. Et ensuite, c'est lundi, mardi, c'est ça ?
Non, vendredi, samedi suivant, le 28 et le 29.
D'accord. Ouais. Donc on a une balustrade, une femme en imperméable, enjambe la balustrade, elle regarde le fleuve, elle regarde en bas, elle s'apprête à sauter, elle y va pas. Et à ce moment-là, arrive un type qui passe au-dessus de la balustrade, qui va sauter et qui la regarde en disant « Oh madame, vous étiez là avant moi, après vous, je vous en prie. Non, ben après vous, non, ben après vous, non, ben après vous. » Et à partir de ce moment-là, on va avoir dans un humour noir, mais terrible, on va avoir 2 personnes qui vont se réconcilier avec la vie et qui vont ressusciter. Et ça, c'est à la fois très drôle, c'est bouleversant. Il y a un troisième personnage, je ne veux pas en dire plus, qui arrive sur la fin de la pièce. Et vraiment, c'est charmant, intelligent, les dialogues fusent, la mise en scène est très très efficace.
Par
sa simplicité, il y a juste une balustrade. Mmh. Et voilà. Donc ça s'appelle...
Un pont trop près, au Théâtre de l'Essaillon. Et dernier conseil... On les avait reçus ici également, le duplex de Didier Caron, qui finit le 30 juin. Bon, je pense que ça doit déjà être complet avant de revenir cet été, à la rentrée, pardon. On y va, on rigole, avec 2 couples dont l'un veut essayer de récupérer l'appartement de l'autre pour monter un duplex, et ils sont prêts à toutes les bassesses pour récupérer cet appartement. C'est une belle comédie avec quatre excellents comédiens.
Pascal Légitimus.
Francis Perrin, Annie Dupéret et Corinne Touzet.
Et c'est une pièce de Didier Caron.
Mise en scène par l'auteur.
Merci infiniment. Merci Aurélius. Merci Nadir Amaoui. L'émission se termine. Merci Cédric Coba pour la réalisation et François Dieudonné, Philippe Alpeche, Camille Meyer et Faustine Clary pour la réussite technique de notre rendez-vous. Lundi, nous irons au musée parce que c'est lundi. Il y a tant de choses à voir. D'ici là, je vous souhaite un beau et bon week-end estival. Prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.